Radio Kapi.
RDC Portugal, c'est ce soir à 18h heure de Kinshasa. La RDC qui fait son retour à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Dans ce journal, la réaction du sélectionneur congolais Sébastien Desabre, celle de Johan Wissa, de l'ambassadeur du Portugal. Vous suivrez aussi plusieurs Congolais qui ont exprimé leurs attentes à propos de cette rencontre. Alors que l'Ituri est confronté à une nouvelle flambée d'Ebola, l'Ordre national des infirmiers du Congo en Ituri dénonce plusieurs faiblesses dans la riposte actuelle et l'appelle à une meilleure protection du personnel de santé et rappelle la nécessité de valoriser les compétences locales. La régie des eaux tire la sonnette d'alarme face à la construction d'un cimetière près de la station de captage et de traitement d'eau de Kamilolo à Lubumbashi. Elle dénonce un danger pour la santé. Pour en parler, nous recevons David Angoyo, directeur régional de la régie des eaux du Grand Katanga. Madame, Monsieur, bonjour. Les Léopards s'apprêtent à disputer ce soir leur premier match de la Coupe du Monde 2026. Un rendez-vous historique qui marque le grand retour de la RDC sur la scène mondiale 52 ans après sa première et unique participation. Dans la tanière des fauves congolais, l'ambiance mêle fierté, émotion et détermination. Mais pour le sélectionneur Sébastien Desabre, il n'y a pas d'oppression particulière. On l'écoute.
On est lancé dans un marathon de 3 matchs avec un match effectivement qui est contre une des meilleures équipes du monde. Donc on est impatient de commencer. Bien sûr qu'on connaît bien cette équipe. On respecte beaucoup le Portugal. C'est une des meilleures équipes du monde avec de grands joueurs. Mais nous, on va jouer avec nos forces. On a des qualités également à faire valoir sur le terrain et on va se lancer dans la partie, bien sûr, avec un plan de jeu, mais avec toute la motivation nécessaire et l'excitation qu'on a de jouer contre une grande nation. Dans le football, rien n'est joué d'avance. C'est sûr qu'il y a un favori et un challenger. Nous, on sera les challengers, mais on aime bien avoir cette position. Maintenant, on fait une rentrée dans la compétition qui est contre une des meilleures équipes du monde, donc on n'a pas de pression particulière.
Et du côté des joueurs, Johan Wissa affiche une lucidité certaine, tout en restant ambitieux face aux défis que représente le Portugal, adversaire de taille pour cette première sortie. Il souligne que les Congolais devront se mesurer à l'une des meilleures sélections du monde, actuellement classée parmi les 5 premières. Johan Wissa.
Donc voilà, c'est une opportunité pour nous aussi de remettre le pays là où il doit être. Donc on appréhende beaucoup ce match parce que c'est la première fois pour tout le monde. On regardait la Coupe du Monde depuis qu'on est jeune, maintenant on y est. Et voilà, ça va être une bonne opportunité. Bien sûr, c'est l'une des meilleures équipes au monde. C'est notre premier mondial. Ils ont l'habitude des sortes de rencontres. Bien sûr, on aura une petite pression, ce qui est normal parce que voilà, ça reste quand même un rêve de gosse. Mais voilà, maintenant il faut prendre chaque minute comme elle est. Voilà, il faut rester positif quoi qu'il arrive parce que voilà, c'est une meilleure équipe que la nôtre et on va les regarder droit dans les yeux parce que c'est 11 contre 11 et le plus important, voilà, c'est de sortir grandi de son match.
Descendons à présent dans les rues de Kinshasa. La grande majorité des supporters affichent un optimisme débordant et ne jurent que par la victoire des Léopards. Écoutez certains d'entre eux.
Bon, ce qui est important, les coachs doivent revoir plus l'attaque. Alors, ils doivent aligner des joueurs qui sont percutants et des joueurs qui sont capables de bousculer la défense portugaise pour permettre en sorte qu'il y ait des occasions pour marquer.
Le football, c'est vraiment un jeu collectif. Bien qu'il y a des niveaux, on ne peut pas compter sur les individualités. Mais moi, ce que je crois que notre équipe est vraiment à la terre pour assumer ces matchs-là. Je crois que le match sera vraiment serré.
On puisse gagner les matchs. On s'est déçoué de tous les Congolais. L'équipe n'est pas du tout mauvaise, mais seulement sur les lignes d'attaque, là il peut améliorer l'équipe qui n'ont pas été complexée.
C'est un dossier signé Joël Wetchi et Vanessa Kongolo. Le match RDC et Portugal est aussi l'occasion de renforcer les relations amicales entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Portugal en RDC, Mario Gomes. Il souligne que certains joueurs congolais ayant évolué au Portugal connaissent bien le système de jeu de la Seleção et pourraient lui compliquer la tâche. On écoute dans cet extrait que nous propose Alain Rung.
Je suis convaincu que ça sera un grand match. D'un côté, l'expérience de Cristiano Ronaldo, d'autre, la jeunesse et irrévérence de l'équipe congolaise. Ça va sûrement être très disputé et on devra être très focalisé si on veut gagner. Une bonne partie des joueurs congolais ont déjà joué au Portugal. Beaucoup ont fait sa formation dans quelques des meilleurs clubs du Portugal, comme Famalicão et Braga et FC Porto. Donc, ils connaissent bien la stratégie et la façon de jouer du Portugal. Et ça pourra nous poser des problèmes. Je suis convaincu que, plus important que le résultat, ça sera une opportunité pour célébrer l'amitié entre le Portugal et le Congo, vieille de plus de 500 ans. Ça, c'est le plus important. Aux Congolais, je voudrais les transmettre toute notre amitié et l'assurance que, à partir de demain, ils peuvent compter avec notre soutien inconditionnel. Mais ce soir, c'est clair, mes racines sont portugaises. Alors j'espère qu'on aura un bon match et que les meilleurs gagnent.
L'ambassadeur du Portugal en RDC, Mario Gomes. Autre nouvelle, alors que l'Ituri est confronté à une nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola, l'Ordre national des infirmiers du Congo, antenne provinciale de l'Ituri, tire la sonnette d'alarme. Dans une déclaration rendue publique lundi à Bunia, l'organisation dénonce plusieurs faiblesses dans la riposte actuelle. Elle appelle à une meilleure protection du personnel de santé et insiste sur la nécessité de valoriser davantage les compétences locales. Nous faisons le point avec Jean-Claude Lokidile.
Réunis en session extraordinaire, les responsables de l'ONIC en Ituri saluent les efforts déployés pour lutter contre Ebola tout en relevant plusieurs insuffisances. Ils dénoncent notamment le recrutement de personnel ne remplissant pas toujours les conditions légales d'exercice, l'absence de vérification systématique des qualifications professionnelles et une faible prise en compte des compétences locales. Les infirmiers s'inquiètent également de la sécurité des prestataires engagés dans la riposte. Selon eux, les menaces et les agressions contre les soignants se multiplient sur le terrain. Timothée Concienza, vice-président provincial de l'ONIC.
À la date du 13 juin 2026, 23 prestataires de santé, dont les infirmiers et les médecins, ont déjà perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. À cela s'ajoutent les agressions, les menaces physiques et verbales, les kidnappings et tentatives d'élimination des agents de la santé lors de leur service à la communauté, y compris la stigmatisation.
Face à ces défis, l'ordre recommande de renforcer les équipements de protection, d'accroître le nombre de centres de traitement d'Ebola et d'associer davantage le personnel de santé aux mécanismes de coordination de la riposte. Bounia, Jean-Claude Lucky, Guilé, Radio Capi.
Les enfants du Nord Kivu doivent continuer de croire à leurs rêves, à commencer par le plus important de tous, le retour de la paix dans leur province. C'est le message lancé mardi par le Parlement d'enfants de Goma à l'occasion de la Journée de l'enfant africain. Organisée par la section protection de l'enfant de la MONUSCO, la cérémonie a porté sur la sensibilisation aux droits de l'enfant et à la prévention contre le virus Ebola en faveur des élèves de 12 écoles de la ville. Des détails avec Rosalie Zawadi.
Au Nord Kivu, le contexte actuel empêche de nombreux enfants de jouir de leurs droits. C'est le constat fait par le Parlement d'enfants de Goma. Malgré cette situation difficile, Ketia Babingwa, vice-présidente de cette structure, a profité de la journée de l'enfant africain pour lancer un message d'espoir à tous ses pères.
Plus particulièrement, c'est de Goma, c'est de prendre courage. Parce qu'on traverse beaucoup de choses. C'est surtout le manque de prise en charge des enfants par leurs parents à cause de manque de moyens financiers. Certains n'étudient plus. La plus grande chose que je peux demander pour maintenant, c'est juste avoir un Congo uni où il y a la paix.
Et ce sont ces enfants qui vivent déjà les conséquences de la crise sécuritaire qui doivent faire face à Ebola, déplore Mathieu Ndongo Koni, conseiller principal au sein de la section de protection de l'enfant de la MONUSCO Goma.
L'insécurité sanitaire s'est ajoutée à l'insécurité sécuritaire. Vu la présence des groupes armés à l'Est, on avait déjà ce risque-là de recrutement et d'utilisation des enfants, des risques de violences sexuelles contre les enfants. Mais aujourd'hui, s'ajoute le risque sanitaire et nous essayons d'apporter aux enfants une information de premier choix pour rester sains de corps et d'esprit.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Comment permettre à l'État congolais de mobiliser davantage de ressources pour booster le développement du pays et améliorer les conditions de vie des Congolais? La question est au cœur de la deuxième édition des Journées scientifiques de Kinshasa, ouverte hier mardi autour du thème « L'accroissement de recettes de l'État, innovation stratégique et résultats ». C'est une initiative de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. La rencontre réunit parlementaires, membres du gouvernement, experts, régies financières, opérateurs économiques et sociétés civile pour réfléchir au renforcement des finances publiques en République démocratique du Congo. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale qui a lancé les travaux appelle à des solutions innovantes. Aimé Boje Sangara au micro de Grace Amzati.
Aucun État au monde ne peut réaliser ses ambitions de développement, financer ses infrastructures, renforcer son système éducatif, améliorer son offre de soins de santé, garantir la sécurité de sa population ou soutenir la création d'emplois sans disposer des ressources suffisantes et durablement mobilisées. Au cours de ces dernières années, les recettes publiques mobilisées sont passées d'environ 4 milliards de dollars américains à près de 20 milliards, tandis que la pression fiscale est passée de 7 à 12,5%. Cette évolution témoigne des efforts consentis par le gouvernement ainsi que les différentes administrations impliquées dans la mobilisation de recettes. Par ailleurs, les conséquences de l'insécurité persistante dans certaines parties de notre territoire national, la prédominance du secteur informel, les pratiques de fraude et d'évasion fiscale ainsi que certaines faiblesses structurelles continuent de limiter le plein potentiel de nos recettes publiques. Face à ces défis, notre responsabilité collective est de rechercher des solutions innovantes, efficaces et adaptées à nos réalités.
De son côté, le manager et initiateur des journées scientifiques de Kinshasa, Toussaint Mika, appelle les participants à transformer les réflexions en actions concrètes afin de renforcer la capacité de l'État à mobiliser davantage de ressources internes. Dans la province de la Tchopo, la décision du ministre provincial des Finances de suspendre pendant 2 mois les taxes sur les denrées alimentaires suscite des réactions. Cette mesure prise par le gouvernement provincial vise à contenir la flambée de prix du riz et du manioc à l'approche des festivités du 30 juin. Mais du côté du secteur privé, les avis restent partagés. La Fédération des entreprises du Congo, section Tchopo par exemple, salue l'effort, mais réclame des réformes plus profondes pour stabiliser durablement le marché. Les détails avec Jacques Mokonkole.
La Fédération des entreprises du Congo section Tchopo brise le silence. Pour l'organisation patronale, suspendre les taxes sur les produits de grande consommation est une bonne initiative, mais elle ne résoudra le problème que très partiellement. Robert Osunja, vice-président de la FEC Tchopo, estime que le gouvernement provincial s'attaque aux symptômes plutôt qu'aux racines de la crise. Pour lui, d'autres paramètres clés sont oubliés.
Nous nous en donnons plus aux cultures pérennes qui sont plus rentables que la culture du paddy et du manioc. En second lieu, aussi longtemps que les multiples barrières érigées le long des routes d'évacuation ne sont pas éradiquées, ça sera un peu difficile pour que ces mesures-là puissent être favorables.
Pour rappel, le ministre provincial des Finances a décidé ce gel fiscal vendredi dernier face à la hausse vertigineuse des prix de l'huile de palme, du maïs ou de la farine. L'objectif affiché de l'autorité est de permettre à la population de célébrer la fête de l'indépendance dans l'apaisement. Mais sans action concrète sur le désenclavement des voies agricoles et la production locale, la fin de la trêve fiscale dans 2 mois risque de sonner un retour brutal à la réalité sur le marché de Kisangani. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Merci Jacques. Au Kasaï oriental, le gouverneur de province s'insurge contre les sabotages du réseau de distribution d'eau potable de la régie des eaux par des jeunes délinquants habitant le quartier Kémek dans la commune de Lamouya. Jean-Paul Mbouébouéka l'a dit hier mardi à la clôture de sa mission d'itinérance dans les communes, à la mairie de Mbouchimaï et dans d'autres institutions publiques et privées dont les bureaux sont installés le long du boulevard Mzé-Laurent-Désiré Kabila. Explication avec Estanda Lafina.
Lors de la clôture de sa mission d'itinérance, Jean-Paul Mbouébouéka a dénoncé le sabotage du réseau de distribution d'eau potable de la régie des eaux au niveau du quartier Kémek dans la commune de Lamouya. Selon Didier Mboudilelo, directeur régional de la régie des eaux, ces actes de vandalisme ont perturbé la semaine dernière l'alimentation en eau potable dans plusieurs quartiers situés autour du palais de justice, notamment Mouluma Moussoulou et Kajiba.
Depuis longtemps, ces jeunes gens-là qui lavent les motos au croisement des avenues du commerce et au délégué ont toujours tendance à perforer notre colonie. Depuis l'ancien réseau, nos agents étaient attaqués chaque fois qu'ils voulaient réparer. Ils se sont même attaqués à la police.
Face à cette situation, Jean-Paul Mbouébouéka, gouverneur de province, instruit la police d'interpeller tout auteur de perforation des tuyaux de la régie des eaux et appelle les parents à sensibiliser leurs enfants.
Ces jeunes sont allés perforer la tuyauterie de la régie des eaux. À des reprises, si on s'y prend quelqu'un, il sera arrêté. Ne venez pas plaider pour ces cas.
Il convient de rappeler qu'une pratique similaire avait été découragée il y a quelques années sur les lieux appelés Machipicha, toujours dans la commune de Lamouya. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En visite en Haïti, Antonio Guterres promet que l'ONU n'abandonnera pas le pays. Le secrétaire général des Nations Unies était en visite hier en Haïti, accueilli à l'aéroport international Toussaint Louverture par le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'ONU a rencontré des autorités, des représentants de la société civile et effectué plusieurs visites sur le terrain afin de mesurer l'ampleur de la crise.
L'invité.
Il s'agit aujourd'hui de David Angoyo-Orutia, directeur régional de la Régie des eaux du Grand Katanga. Il tire la sonnette d'alarme face à la construction d'un cimetière tout près de la station de captage, de traitement et de pompage d'eau de Kimilolo à Lubumbashi. Il estime que cette proximité représente un risque majeur pour la santé publique. Il appelle donc les autorités provinciales à prendre leurs responsabilités et à délocaliser ce lieu d'inhumation. David Angoyo-Orutia s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur le directeur David Angoyo-Orutia, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour, chers auditeurs de la radio de la paix.
À Lubumbashi, à une dizaine de kilomètres, il y a un danger qui guette le site de captage d'eau de Kimilolo de la Régie des eaux. Il y a un cimetière qui est en train d'être érigé et qui n'est pas très loin du site de captage de Kimilolo. Comment tout d'abord avez-vous accueilli cette nouvelle?
Voilà, étant que professionnels de l'eau devons garantir une eau à distribuer ou à livrer à la population de bonne qualité, exempte de toute ou d'une moindre source de contamination. Nous avons mal appris cette nouvelle. Elle n'est pas une bonne nouvelle pour nous, la Régie des eaux, parce que la source d'eau ne peut pas cohabiter avec le cimetière, qui est un point qui produit une pollution très dangereuse à une très grande échelle et une pollution qui ne peut plus justifier la poursuite normale de l'exploitation ou du captage, du prélèvement de ces eaux de source à servir à la population.
Et quels sont les éventuels dangers qui pourraient provenir de l'érection de ces cimetières non loin du site de captage d'eau?
Mais que des dangers et des risques, c'est l'arrêt de l'exploitation. Parce que si cette construction du cimetière est consommée, ça signifie quoi? Mais notre activité deviendrait incompatible. Et là, on va arrêter. Il y a des corps humains inhumés dans cette portion des terres et il y a une activité de décomposition du corps humain. Cette décomposition génère, produit des lixivia. C'est la somme toute de ce qu'on peut avoir comme pollution, mais il y a de l'eau qui dégage, il y a les matières grasses, il y a les glucides, les lipides, il y a les virus, il y a les germes pathogènes, il y a aussi, surtout ce que nous craignons, mais ce sont des métaux lourds, comme les mercure, comme les phosphores qu'on peut rencontrer dans les corps humains, qui est dégagé au cours dans le processus de la décomposition.
Quelle est l'importance de ce site de captage d'eau de Kimilolo, ici à Lubumbashi?
Kimilolo, c'est l'ensemble qui regorge aussi, mais tout ce qui est capté localement et aussi, mais dans des points légèrement un peu distants, tantôt à 3 à 5, maximum 7 kilomètres, on a les sources de Kisanga 1 et Kisanga 2 qui sont sur la colline, là, vers Kipushi. Il y a les sources de Kafubu et j'en passe. Ces sites méritent d'être conservés. Ces sites sont en train de faire un grand travail, le travail de fournir ou de capter la ressource souterraine. Parce que Lubumbashi, c'est beaucoup plus des ressources souterraines qui sont sûrs. On n'a pas de grandes rivières à l'instar des autres villes. C'est parmi les points d'eau les plus sûrs mais qui sont exploités aujourd'hui. Même demain, on va continuer parce que la ville va continuer à exister. Alors d'où Kimilolo doit être protégé parce qu'il y a dans la gestion de l'environnement une notion qui s'appelle le périmètre des protections. Quand on exploite une source d'eau, il faut respecter, observer un minimum de recul, une zone, une aire, un espace où aucune notre activité polluante ne peut être développée.
Et Kimilolo alimente combien de pourcents de la population de la ville de Lubumbashi?
Kimilolo a une très grande pondération et moi je vous dirais les deux tiers de la ville de Lubumbashi parce que c'est un bassin qui est très riche en aquifères. C'est la partie sud et dans cette partie sud là, c'est Kimilolo qui est les poumons. Aujourd'hui, Kimilolo il a la vocation de produire pas moins de 200 000 mètres cubes jour. Vous voyez 200 000 mètres cubes jour aujourd'hui, c'est énorme, c'est important, bien que nous en sommes à peu près à deux tiers aujourd'hui, mais il y a encore d'autres développements, il y a encore des investissements qui sont attendus, escomptés, mais pour pouvoir encore améliorer améliorer parce que la ville est en train de s'étendre dans les parties sud tout comme dans la partie nord.
Et quels sont les efforts que vous fournissez pour qu'il y ait peut-être la délocalisation de ces cimetières?
Une fois que nous avons eu l'information, nous sommes allés identifier la source parce qu'on ne peut pas parler dans les vides, on ne peut pas que se limiter au bruit de la rue. Effectivement, on a confirmé, il y a des travaux d'aménagement, des travaux de construction de ces cimetières. Et nous avons saisi les gouvernements provinciaux, son excellence le gouverneur, pour informer, dénoncer cette situation et demander la délocalisation pure et simple de ces cimetières.
Monsieur le directeur David Angoyo Routia, je vous remercie.
Voilà, c'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste, et aux chers auditeurs de la Radio Capi, Radio de la Paix, Radio du Progrès, Radio du Développement.
Merci, monsieur David Angoyo Routia, directeur régional de la Régie des Eaux du Grand Katanga, interrogé par Paulin Munanga. Fin de ce journal, Babel Pongomassimango vous l'a présenté avec l'apport de Pierre Dessino à la technique et des étudiants à la coordination et à l'air Hirung pour la supervision. Toute cette équipe vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent après-midi.